Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, sur toute l'Île-de-France et grâce à notre appli dans le monde entier. Jacqueline Boraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio. Université, innovation et entreprise, comment créer des passerelles concrètes sur le territoire? Aujourd'hui, vendredi 12 juin 2026, émission spéciale CYU, PUI CY Transfert, consacrée à l'innovation, à la recherche et surtout au lien entre l'université et les entreprises de notre territoire. Comment transformer les travaux de recherche en solutions concrètes pour les entreprises? Comment permettre aux dirigeants de TPE, PME ou start-up d'accéder à l'expertise universitaire? Comment accompagner les innovations, les projets entrepreneuriaux et le développement économique local? Pour y répondre, nous parlerons bien sûr du PUI CY Transfert, le pôle universitaire d'innovation porté par CY Cergy Paris Université, mais aussi d'entreprises implantées dans le Val d'Oise qui travaillent au quotidien sur l'innovation, la performance et l'accompagnement des entreprises. Pour illustrer ces thèmes, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Hofkens, directrice adjointe de CY Transfert. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jacqueline.
Stéphane Avronsard, fondateur et président d'Axone Consulting, expertise ferroviaire et écriture de documents d'entreprise. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Et Vincent Bosch, fondateur dirigeant associé du cabinet Orios. Bonjour Vincent.
Bonjour Jacqueline.
Bienvenue et merci d'être les invités en direct chez IDFM Radio.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Alors, je propose un premier tour de table afin que chacun se présente en quelques mots. Isabelle ?
Donc bonjour, moi Isabelle Hofkens, donc je suis directrice par intérim de CY Transfert et en charge du pilotage du pôle universitaire d'innovation.
Très bien, merci Isabelle. Stéphane ?
Eh bien, donc Stéphane Avronsard, fondateur de Axone Consulting, et nous on s'occupe de ce qui passionne les gens dans les entreprises, la documentation d'entreprise.
Ah bon, on vous êtes sûr? On va en parler.
Justement,
tout à l'heure.
On va en parler.
Merci Stéphane. Vincent ?
Et Vincent Bosch, dirigeant d'Orios Consulting, qui aide les entreprises dans leur stratégie, et aussi vice-président de la CPM 95, qui est partenaire du pôle universitaire et de CY Transfert.
C'est vrai, n'oublions pas la CPME qui est aussi un de nos partenaires. Merci Vincent. On enchaîne avec vous Isabelle. Alors, quelques précisions sur le PUI CY Transfert. À quoi ça sert?
Alors, c'est un label déjà, qui est adressé à un consortium avec des fondateurs. Donc dans notre cas, les fondateurs sont le CEREMA, le CNRS, la SAT Erganeo et CY, et avec une cinquantaine de partenaires du territoire, avec un pour objectif de mieux coordonner l'innovation et éventuellement d'identifier quelques petits manques dans la chaîne et de les combler.
C'est ça.
Donc voilà, pour ça, on a mis en place un certain nombre d'actions depuis 2 ans.
Un label dont toutes les universités ne sont pas porteuses. Hein. Vous avez candidaté.
Oui, si c'est ça. C'est un appel à projet du ministère opéré par l'Agence nationale de la recherche. Et donc, on a été lauréat il y a 2 ans maintenant, puisqu'on est à mi-parcours. Et il y a eu 19 pôles universitaires d'innovation de labellisés.
Et donc un label qui vous oblige aussi à être tout le temps, on va dire, sur le pont pour prouver que vous êtes vraiment détenteur de ce label.
Oui, alors il y a plein d'actions qui découlent de ce label. Il y a une mission de sensibilisation et de formation à la valorisation, donc ce qu'on fait des résultats de la recherche. Et il y a une obligation d'animation du territoire autour des questions de l'innovation.
Alors, si White Transfer existait avant ce PUI, bien sûr, on parle beaucoup de transfert technologique. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ?
Alors, le transfert technologique, c'est un enseignant-chercheur dans un laboratoire académique qui développe une technologie. Et l'objectif, c'est qu'elle ne reste pas dans le laboratoire sur une étagère, mais qu'elle serve à la société, et donc qu'on fasse un transfert vers un partenaire socio-économique, quel qu'il soit. Donc ça peut être une association, une fondation, une collectivité territoriale ou une entreprise, en fonction des thématiques de recherche.
Et comment accompagnez-vous les enseignants-chercheurs, les start-up ou encore les entreprises ?
Alors, on accompagne sur tout le long de la chaîne, donc de l'idée au transfert. Et donc, on a mis en place des programmes de prématuration et de maturation qui permettent de finaliser une technologie qui n'est pas encore assez mûre pour passer sur le marché. On a mis en place aussi des actions qui permettent d'identifier les besoins des entreprises et de voir si on a en stock des choses qui peuvent répondre à ce besoin et solutionner leurs problématiques. Et puis on accompagne l'enseignant-chercheur qu'il souhaite dans la création d'entreprise, ou on accompagne vers le transfert par le biais de licences, oui, vers l'entreprise qui va utiliser la technologie à des fins commerciales.
Vous pouvez nous donner des types de projets pour lesquels vous avez participé ?
Alors, c'est assez hétéroclite, hein, puisque à l'université, on a toutes les disciplines, sauf la médecine en tant que telle, puisqu'on n'a pas de fac de médecine. On a des sujets qui ont travaillé sur la lutte contre le web harcèlement. On a des projets qui travaillent sur la résistance des matériaux au feu. On a des sujets qui travaillent sur la conduite de véhicules autonomes. Il y a aussi des sujets sur des jeux pédagogiques, des applications pour l'éducation. On a aussi des choses pour la restauration d'œuvres d'art.
C'est assez hétéroclite. Oui, mais c'est vrai qu'on en parle nous régulièrement, mais c'était bien de le rappeler pour justement donner tout le spectre de vos recherches. Donc je m'adresse à Stéphane et Vincent. Stéphane, aujourd'hui, vous êtes partenaire de CY Transfer. Vous connaissiez ce département et cette spécificité de mettre en relation université et entreprise ?
Alors effectivement, je suis aujourd'hui partenaire du PUI et c'est grâce à Vincent d'ailleurs, et puis par le réseau du 95, que j'ai découvert les possibilités pour des entrepreneurs du monde privé qui puissent accéder à l'innovation. Et c'est vrai que on se dit oui, les universités ont forcément un savoir, elles ont des capacités à faire de la recherche, mais comment y accéder ? Quel est le point d'entrée ? Et dans une administration ou une structure aussi grande, c'est toujours difficile. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va directement au bon endroit et après, on a des interlocuteurs qui vous accompagnent de façon très précise. C'est ça qui est vraiment appréciable.
Parce que dans le cas présent, c'est l'université qui vous accompagne.
Oui, aujourd'hui, voilà, j'ai un projet de recherche donc sur l'IA. Oui. On en parlera peut-être certainement tout à l'heure. Où nous, on brasse beaucoup de documents. Forcément, c'est notre cœur d'activité. Et pour pouvoir nous aider comme un outil de productivité, d'efficacité, on travaille avec le CY pour nous développer notre propre outil.
D'accord.
Et en particulier parce que j'ai des sujets de confidentialité. Les données que je traite ne sont pas les miennes, sont celles de mes clients. Mm-hmm. Je signe des clauses de non-divulgation très régulièrement.
Ouais, ce qui est la grande interrogation avec l'IA aujourd'hui.
Et voilà, et donc mettre ça sur un ChatGPT ou un Claude, c'est autant donner à tout le monde les documents de mes clients. Donc ça, c'est hors de question. Donc, c'est pour ça que là, on travaille avec l'université sur ces sujets et on a accès à des clouds souverains en même temps, donc c'est l'idéal.
Très bien, merci Stéphane. Vincent, vous vous avez toujours été en lien avec l'université, j'ai l'impression, depuis
Moi, c'est un sujet qui me passionne depuis pas mal d'années. C'est vrai que j'étais un peu à l'origine du pôle universitaire quand l'appel d'offres a été lancé. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, alors surtout, là je vais parler avec la casquette CPME, c'est qu'aujourd'hui on a quand même 400-500 adhérents.
Oui.
Ça leur permet d'avoir un bureau d'études externalisé. Les PME, les TPE n'ont pas forcément les moyens d'embaucher des ingénieurs, des doctorants, ainsi de suite. Et aujourd'hui, les partenariats et les contrats de collaboration là, qui se lancent avec le pôle d'Isabelle et de CY Transfer, permet à ces industriels de pouvoir, pas comme Stéphane, externaliser leur partie bureau d'études. Parce que le projet Stéphane va durer 6-9 mois, mais après, l'ingénieur qui l'aurait embauché pour développer ce projet-là, il aurait fallu lui donner beaucoup autre chose à faire. Il n'a pas forcément des projets qui arrivent. Donc, c'est cette partie-là. Et aussi, on accompagne aussi derrière un certain nombre de créateurs dans la mise en place et la création de leur structure.
Aujourd'hui, la recherche de financement, je crois
la
aussi.
La recherche de financement, oui, ça c'est une de nos casquettes aussi sur Orios. Et ce qui est intéressant aussi avec le pôle universitaire, c'est que ils ont aussi créé un incubateur.
Oui.
Donc aujourd'hui, on a un incubateur au sein de
pôle universitaire. Oui, c'est ça. Non, j'ai reçu Christelle Ventura récemment pour en parler.
Et cet incubateur permet justement de pouvoir identifier alors soit des chercheurs qui ont des projets, soit des gens qui ont des idées qui savent pas forcément comment les mettre en musique. Et derrière, avec l'équipe d'Isabelle et de Christelle, ça les permet de les associer avec des chercheurs et de pouvoir avancer et créer des entreprises ou de transférer vers une entreprise existante.
Vous avez raison de dire, et on le martèle à chaque fois qu'on reçoit CY, que ce partenariat permet aux entreprises, quelle que soit leur taille, d'avoir un bureau de R&D qui ne pourrait pas forcément
C'est un bureau de R&D. En plus de ça, même sur certains projets aussi, ça permet de faire des tests.
Oui,
Donc, et autour du pôle universitaire, ils ont aussi créé des clubs. Donc, dont le premier là qui a été créé il y a quelque temps, qui est le club sur l'eau.
Techno,
Techno, et qui permet justement de faire travailler. Et là, on a contractualisé il y a peu de temps des toutes petites structures avec deux personnes, avec des gros groupes comme le CIARP et des doctorants derrière et plusieurs labos derrière qui vont permettre d'émerger des nouvelles technos, quoi.
Merci Vincent pour ces précisions. Isabelle, pendant longtemps, on a eu l'image d'une université éloignée du monde économique. Aujourd'hui, on sent une vraie volonté de rapprochement. Ce que certains d'entre vous regrettent, c'est qu'au niveau du langage, c'est pas encore toujours approprié.
Ouais, alors, il y a effectivement ces deux mondes qui doivent s'apprivoiser. Le vocabulaire n'est pas les mêmes et la temporalité n'est pas la même. Hein, la temporalité d'un chercheur en laboratoire académique et la temporalité d'une entreprise sont pas faites pour aller ensemble de prime abord. Et c'est tout l'objet en fait de CY Transfer et du PUI, c'est d'être un petit peu cette boîte de décodage qui va permettre aux deux parties de se comprendre, d'arriver à travailler ensemble et d'aligner leurs objectifs et leurs temporalités.
Est-ce que vous avez le sentiment que depuis que vous êtes labellisé PUI, ça s'est accéléré au niveau de CY Transfer?
Clairement, oui, clairement, puisque de toute façon, on avait annoncé un certain nombre d'actions à mettre en œuvre, qu'on a mises en œuvre. Ça donne un calendrier un peu précis, puis ça donne des moyens supplémentaires aussi, hein, puisque le label s'accompagne d'une enveloppe budgétaire donnée par le ministère, qui nous ont permis de mettre plus rapidement en œuvre les choses que si on avait dû le faire sur les simples crédits de CY Transfer. On a notamment mis en place des fonds de prématuration qui nous permettent de financer des projets en propre, avant que ça parte sur une création d'entreprise ou sur un transfert, sur des thématiques qui ne sont pas bien dotées par ailleurs. Donc ça permet de combler quelques petits trous dans la raquette et de faire avancer les projets un peu plus rapidement.
Est-ce qu'il est possible de répertorier les besoins les plus fréquents des entreprises qui viennent vers vous? Ou c'est, comme vous le disiez, éclectique?
Alors c'est éclectique dans la thématique, mais dans le besoin, c'est relativement bien identifié. Donc on a des entreprises qui ont un besoin de développement techno, donc qui ont besoin de travailler la techno et de la faire avancer. On a des entreprises qui ont besoin d'une validation de ce qu'ils ont déjà fait. Et on a des entreprises qui ont besoin de tests et d'expérimentation pour pouvoir faire de la mesure d'impact. Donc, on a un peu ces trois grands chantiers qu'on a essayé d'organiser et sur lesquels on a essayé de mettre des moyens et de la documentation aussi pour que les gens apprennent à se parler.
Merci Isabelle. Stéphane, le besoin que vous exprimez aujourd'hui, vous l'aviez en tête ou c'est le fait de rencontrer CY qui a fait que ce besoin est né? Comment ça s'est... la genèse?
La genèse, en fait, comme je vous disais, l'IA est un élément extrêmement important aujourd'hui dans tous les métiers. Donc, je savais que ce sujet a été forcément abordé pour mon activité. J'avais besoin de travailler sur ces sujets-là, mais donc on va d'abord, le premier réflexe, c'est de se dire qu'est-ce qui existe sur le marché, est-ce qu'il y a des solutions déjà développées par rapport à mon besoin. Et c'est au cours des discussions avec le réseau que j'ai découvert qu'il y avait possibilité de développer son propre outil, de faire sa propre recherche. Et c'est ça qui m'a permis de rentrer au PUI. Et c'est vraiment là, si je peux témoigner de ce que tu disais sur la rapidité d'accès et puis dans une vie précédente.
La réactivité.
Avant de travailler, avant de fonder Action Consulting, j'ai travaillé pendant plus de 22 ans à SNCF Réseau. Et j'ai eu pendant une dizaine d'années en charge les projets d'innovation. Et j'ai développé des gros projets, des grands projets à plusieurs millions d'euros avec des liens, des tests chiffres, des universités. Et ce que tu témoignais sur, effectivement, c'est pas les mêmes mondes, les échelles de temps sont pas les mêmes. Et oui, j'ai rencontré ça dans ma vie précédente où l'échéance c'était plutôt les examens de fin d'année, c'était plutôt la publication. Mais le sujet industriel qui était derrière ce pour quoi on voulait que l'université travaille, la brique technologique, elle passait après.
Oui.
Là, c'est pas le cas, puisque justement, vous êtes focalisé pour répondre à un besoin de l'industriel.
On vient un petit peu à votre rencontre.
Donc, on vient à la rencontre, et puis quand le sujet est exprimé, une organisation qui se met en place, et puis on se dit, ok, maintenant, on va jalonner, et on va travailler sur le besoin, et pas forcément uniquement de la recherche pour faire une publication qui va permettre de répondre aux objectifs de l'université. Donc voilà, c'est un témoignage là pour le coup. J'ai pu constater les deux et c'est appréciable.
Ça a été rapide. Merci Stéphane. Vincent, vous êtes aussi... comment il faut que vous arriviez à détecter quand parmi toutes les entreprises que vous fréquentez, il faut que vous arriviez à détecter qu'elle peut vraiment avoir un besoin comment ça se passe?
Aujourd'hui, ça vient tout seul.
Oui.
Les gens commencent à bien connaître parce qu'il y a quand même entre Céline et puis toute l'équipe d'Isabelle.
Il y a beaucoup d'informations.
On communique énormément. Tous les partenaires ont des conventions de partenariat avec un certain nombre d'engagements. Et un des engagements, c'est de faire circuler l'information. Mmh. Donc, ils organisent quand même pas mal d'événements entre les cafés PUI, entre les Tech Days où ils sont partenaires. Il y a pas mal d'événements de ce type-là. Si vous prenez la CPME, on a déjà fait pas mal d'interventions sur les déjeuners qui réunissent quand même plus d'une centaine de personnes. On a fait des événements thématiques aussi sur la recherche. Et ils ont mis en place un process en plus de la partie techno qui permet d'accélérer énormément ce dialogue entre le monde universitaire et le monde industriel, qui permet de faire vraiment un transfert. Et après, les gens sont au courant qu'on a un partenariat, nous, au niveau de la CPME. Donc, dès qu'ils ont une idée d'innovation, là, j'en ai eu trois hier, par exemple, que j'ai pas encore transmis à Isabelle. Mais, c'est un industriel qui a un besoin particulier, il a l'idée, point.
Oui.
Il sait qu'il n'y a pas de marché.
Il a envie de faire ça.
Voilà, il a envie de faire ça. Il sait qu'il y a un marché pour faire ça. Mais par contre, c'est une techno. Alors, ça englobe de la mécanique jusqu'à la partie informatique. Et c'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais voilà, il m'a envoyé un WhatsApp hier avec ce qu'il veut faire, l'idée. Et puis maintenant, Vincent, débrouille-toi pour me trouver les gens qui vont bien pour m'aider, contractualiser et aller chercher les financements pour le faire, quoi.
Mais ça doit être assez excitant finalement.
Ah oui, c'est très intéressant. Moi, j'ai toujours été passionné par l'innovation. Donc, et après, on a des petites structures qu'on va rencontrer. On a mis en place aussi, on l'a pas dit tout à l'heure, un comité innovation en partenariat avec Réseau Entreprendre, Initiative et CY Transfer. Où là, les porteurs de projets viennent présenter leurs projets et derrière, ils ont droit à un financement de ces trois parties pour les aider dans le développement de leur innovation. Typiquement, avec Olivier Romain à l'époque, on a rencontré un jeune qui avait un projet pas forcément complètement mature et aujourd'hui, il fait partie du club O on l'aide énormément dans le développement de ces technologies.
Très bien. Merci Vincent, merci pour ces précisions. Mais
je note comment on peut demander à Vincent d'autres projets. Donc,
WhatsApp.
J'ai son WhatsApp, je ne vais pas arrêter.
Voilà. Oui, on a tous noté le WhatsApp. Merci Vincent et Stéphane. Alors, on marque une pause avant de revenir sur votre actualité, Isabelle. Et je vous propose d'écouter le duo Julien Clerc et Zaz, Ce n'est rien.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
IDFM Radio, le média valdoisien. Vous êtes bien sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct et notre spécial CYU ce matin avec Isabelle Hofkens, directrice par intérim de CY Transfer. Stéphane Avronsart, fondateur et président d'Axone Consulting, expertise ferroviaire et écriture de documents d'entreprise. Et Vincent Bosch, fondateur dirigeant associé du cabinet Orios. Alors Isabelle, vous avez une actualité assez chargée, si l'on peut dire. Comment, je vous laisse nous parler de Startest, Cifre, Café PUI, Journée des partenaires et les Assises de l'innovation.
Oui, sur les prochains mois, on va avoir un petit peu tous les types d'animations qu'on est capable de faire sur le territoire. Donc on a à la fin du mois de juin Startest, qui est un atelier sur 3 jours de sensibilisation à la Vallo. Et donc du coup, on réunit dans un même lieu pendant 3 jours des doctorants, des enseignants-chercheurs et des personnels des universités qui travaillent sur l'innovation et l'accompagnement de l'innovation. Et on les fait travailler sur des créations d'entreprises fictives. Ils partent de l'idée jusqu'au pitch devant des investisseurs en 3 jours. Donc, c'est pour les faire travailler autour de la thématique de l'innovation. On a les cafés PUI, en fait, qui sont organisés tous les mois. Et donc, le prochain est le 9 juillet et traitera de la thèse CIFRE. Donc, le financement, le recrutement d'un doctorant sur un projet de recherche en cofinancé par un partenaire privé et un laboratoire de recherche public.
D'accord.
On a aussi le 13 octobre, comme on le fait 2 fois par an, la journée des partenaires du PUI, où tous les gens qui sont partenaires du PUI, partenaires actuels ou partenaires en devenir, qui veulent avoir de l'information, sont conviés et on fait un petit peu un bilan des 6 derniers mois et on annonce un peu les actions des 6 prochains mois.
Oui, oui, ça peut donner des idées à certains.
Voilà, tout à fait. Se greffer sur certaines actions qui leur parlent plus que d'autres. Et puis on a notre événement annuel le 11 décembre qui ça sera la 3e édition, les Assises de l'innovation, qui auront lieu au Centre des Arts à Enghien-les-Bains. Et donc c'est une journée dédiée à l'innovation. Toutes thématiques confondues, aussi bien sciences et techniques que sciences humaines et sociales, avec des tables rondes, avec des intervenants très intéressants avec un animateur fort sympathique.
Oui, et probablement avec encore plus, puisque vous aviez eu beaucoup de succès à la deuxième, au premier aussi, aux premières assises, mais deuxième, donc là on peut supposer.
Oui,
que...
mais en fait c'est un petit peu l'objet, c'est d'en faire un rendez-vous un petit que les gens prennent en date d'une année sur l'autre et ils savent que à cette période de l'année il y a les assises de l'innovation et du coup c'est que ça devienne un événement récurrent, quoi.
Très bien. Vincent Bosch, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, juste sur les assises, si vous voyez, recherche des sponsors. N'hésitez pas à contacter Céline, il y a 4 packs, et c'est assez intéressant derrière pour se mettre
Céline
en avant.
Céline
Bertin. Ça permet de mettre en avant et de rencontrer, d'avoir un petit stand avec un kakémono et de pouvoir présenter ce qu'on peut faire. Il y a 4 packs, c'est pas excessif. Je sais que la CPME est partenaire, Orio c'est partenaire, il y a quand même déjà pas mal de monde là. Mais bon, c'est toujours intéressant de le signaler. On cherche tous des partenaires, tous un peu d'argent.
C'est votre casquette là de financeur qui ressort. Merci Vincent pour ce message. Isabelle, toutes ces actions sont bien sûr en lien avec le PUI. C'est pour vous. Vous avez un prochain bilan à présenter.
On a fait l'évaluation mi-parcours. On a été auditionné par l'ANR, les GPI, DGRI, tous les opérateurs. Et donc on attend le résultat de cette évaluation pour début juillet, mais les indicateurs étaient plutôt verts en termes de réalisation. Donc on va voir. On attend le rapport d'évaluation pour voir comment c'est vu de la part des financeurs.
Bien sûr, puisque c'est eux qui, ça reste le nerf de la guerre.
C'est ça. Nous on est contents. D'accord. Maintenant, on espère qu'ils le seront aussi.
Merci beaucoup. Isabelle, merci pour ces éclairages très concrets sur le PUI et puis ce travail essentiel, rapprochement entre recherche universitaire et entreprise. On marque une nouvelle pause et là on écoute Big Flo et Oli qui nous accompagnent à leur titre Demain.
Big Flo et Oli, tu connais, non?
Petit biscuit.
Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires. Puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que
c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses.
Ne pense plus à rien, 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 rien.
Ça y est, demain.
dit. T'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De façon je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait
It was all a dream.
Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que
c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses,
ne pense plus à rien, 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 rien.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio avec ce matin notre spécial CYU et PUI CY Transfer. Et nous venons de voir avec Isabelle Hofkens comment rapprocher le monde universitaire et les entreprises. Et justement, avec notre deuxième invité, Stéphane Avronsart, on va voir comment cette dynamique d'innovation et d'expertise se traduit dans le monde de l'entreprise. Avec un acteur qui est bien implanté dans le Val d'Oise. Hein. J'ai vu que vous preniez vos marques hein, dans le Val d'Oise, Stéphane.
Exactement. Alors j'ai le siège de mon entreprise, mais j'habite également dans le Val d'Oise depuis longtemps. Notre activité, donc avec un peu d'humour tout à l'heure, je disais que les entreprises et les collaborateurs sont passionnés par la documentation. Alors évidemment, bien souvent, c'est la dernière tâche que les ingénieurs, techniciens ou responsables ou managers ont envie de traiter. Et Axon Consulting propose justement un service qui permet d'externaliser la rédaction documentaire. Donc on est vraiment sur tout ce qui est documents de technique. On ne sera pas sur la documentation de communication. Il y a des agences de communication qui savent faire très bien. Oui. On ne fera pas de flyers, ça c'est pas notre job. Par contre, quand vous avez besoin, par exemple, d'être certifié, vous avez besoin de décrire votre organisation, vos modes de fonctionnement, vos processus, procédures. Et ça, c'est compliqué à faire. Les experts n'aiment pas faire ça. Et ça nécessite aussi un savoir-faire de prise de hauteur, de simplification. Donc c'est là que nous, on accompagne pour rédiger tout ce type de documents. Ça va être aussi tout ce qui est documents associés à des machines. On a parmi nos clients des fabricants de cafetières qui fabriquent en France. Donc on est fiers aussi de les accompagner. Mais chacune de leurs machines doit avoir obligatoirement une notice d'installation et d'utilisation. C'est une obligation de la directive européenne. On va être aussi sur des documents associés à des logiciels. On va être sur les machines. On va prendre les plans de la machine pour pouvoir ensuite en extraire des éléments pour pouvoir expliquer soit la maintenance, soit l'utilisation, soit les systèmes d'urgence, puisque c'est une obligation de décrire dans vos machines. Enfin voilà, tout ce type de documentation très très lié à l'entreprise. on accompagne nos clients pour externaliser cette partie-là, qui effectivement en général n'est pas le premier sujet sur lequel les équipes se jettent.
Voilà. C'est pas le premier sujet, mais en revanche, ça doit concerner énormément d'entreprises.
Voilà, c'est vraiment un marché.
Ça reste stratégique.
Un marché de niche qui est stratégique, mm-hmm. puisque on a un client d'ailleurs qui est venu nous voir parce que il avait eu une démarche engagée par la DGCCRF.
Oui.
Et donc parce que sa consigne n'était pas conforme, alors qu'il vendait des produits grand public, et il manquait des informations sur les produits dangereux potentiels, sur le recyclage de la machine, sur un certain nombre d'items qui sont imposés et par la directive machine et par la législation française. Et bien là, ce client-là est venu nous voir en disant, écoutez, aidez-nous là-dessus.
Mm-hmm. Oui, parce qu'il risquait de perdre...
C'est-à-dire qu'il n'était pas conforme à la loi, simplement, et pourtant, c'est un simple document. On a aussi des clients qui viennent nous voir en fin de projet, puisqu'on est aussi sur tout ce qui est documents associés à des projets. Donc, on a des clients qui vont être sous-traitants d'un General Motors, par exemple, ou d'une grosse usine, et eux sont des fabricants de filtration de l'air, par exemple, donc doivent livrer une quasi mini-usine pour gérer tous les flux d'air. Ils doivent fournir dans les documents d'ouvrage exécutés toute la documentation associée à leurs produits. Mmh. Et ils s'aperçoivent à la fin que la doc est pas conforme, pas livrée, et que là, il y a dans le contrat entre 5 et 30% de retenue de la facture finale sur la livraison de tous les documents. Et 30% ou ne serait-ce que 5%
Selon le montant de la facture.
Voilà, et comme ça arrive en fin de projet, les équipes sont plus ou moins remobilisées sur un nouveau projet. Et là, on se retourne tous pour dire qui s'occupe de cette doc. Oui, mais on a 5% à la clé quand même. Voilà, donc c'est le service,
la valeur ajoutée. Dans ce cas-là, on fait appel à vous en catastrophe.
Voilà, dans ce cas-là, on appelle Axon Consulting. On dit, voilà, le sujet... Et comme on est habitué à travailler dans des environnements complexes, très réglementés, puisqu'on intervient donc dans le médical, on a des clients dans le médical, des clients grand public qui sont soumis à des règles strictes en termes d'hygiène et autres. On travaille dans le ferroviaire. Je vous ai dit que j'étais issu du monde du ferroviaire, donc c'est un monde très très contraint. C'est comme l'aéronautique. Mm-hmm. Donc il y a beaucoup de choses qui nécessitent d'être écrites, décrites. Parce que bien souvent c'est la sécurité derrière qui en dépend.
Oui.
Et si je prends un exemple du monde du ferroviaire, on remplace pas un morceau de rail comme ça. Mm-hmm. Vous doutez bien que il y a des procédures très strictes. Ces procédures doivent être écrites pour qu'elles puissent être auditées.
N'importe qui prenant cette notice doit savoir ce qu'il faut faire.
Exactement, ils doivent savoir écrire les règles.
Ça doit être universel quelque part.
C'est ça. Or, pour faire ça, en général, c'est au manager ou aux directions qualité, hygiène, sécurité que l'on domine ça. Mais les fonctions transverses sont rarement surdotées en général. Et pour produire de la doc, c'est compliqué.
Oui.
Autre moment où on vient nous chercher, c'est quand il y a une réorganisation, une évolution réglementaire.
Ouais.
Où il y a de nouvelles exigences et d'un seul coup on fait l'état des lieux de notre documentation et on s'aperçoit qu'on est plus conforme puisqu'il y a des choses nouvelles qu'il va falloir faire évoluer. Donc le produit va évoluer puisque la législation impose de nouvelles systèmes de sécurité par exemple ou autre. Eh bien il faut que la doc suive. Et quand vous êtes dans le médical, quand vous êtes dans l'aéronautique, quand vous êtes dans le ferroviaire, eh bien, si la documentation n'est pas conforme, en fait, c'est votre produit dans son ensemble qui n'est pas conforme. Et donc, voilà pourquoi notre valeur ajoutée est là, est bien là, et soulage vraiment nos clients.
D'autant qu'aujourd'hui, il y a cette norme de prévention. Hein, donc, vous êtes, j'imagine, obligé d'aller vraiment chercher le plus loin possible pour prévenir votre client.
C'est ça, c'est que... On va pas se positionner comme des spécialistes de chacun des domaines, forcément, quand on intervient pour du médical ou autre. Eux, ils sont soumis à une directive qui s'appelle la MDR, donc ça veut pas dire mort de rire, pour le coup, là, ils s'amusent pas avec celle-là.
C'est dommage. C'est
Medical Devices Regulation, c'est une obligation pour eux de pouvoir démontrer que leurs produits répondent à toutes ces exigences-là. Donc on peut pas être spécialiste de cette directive. Par contre, on va travailler systématiquement avec des experts, éventuellement leur cabinet juridique qui, eux, sont capables de traduire ce que ça veut dire dans leur monde. Et puis, on va se saisir de ça, plus l'expérience que l'on a d'un certain nombre d'autres projets où on a eu à gérer le même type de sujet. Donc notre valeur ajoutée, c'est aussi de montrer des bonnes façons de faire et de proposer à nos clients des modalités de description auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé.
C'est ça, c'est là où votre métier de rédacteur technique intervient.
Ouais. C'est ça, c'est que donc je m'appuie dans mes équipes sur un métier qui est très peu connu, qui s'appelle le rédacteur ou la rédactrice technique. Donc aujourd'hui j'ai 8 collaborateurs. Hein, en 7 ans on est passé de j'étais tout seul à aujourd'hui ouais. j'ai 8 collaborateurs. J'en suis assez fier.
Tous ingénieurs.
Pas du tout, tous rédacteurs techniques.
D'accord.
Pour le coup. Donc c'est un diplôme à l'université, c'est un bac plus 3 ou un bac plus 5, c'est une option d'un métier rédacteur technique, et ils apprennent en fait à manipuler de l'information qu'ils ne maîtrisent pas forcément, puisque eux, en plus étonnamment sont plutôt issus de la filière littéraire.
Oui.
Donc ils ont une capacité rédactionnelle en français ou en anglais, donc on écrit dans les deux langues, et ils ont une capacité à aller chercher, sourcer l'information, interroger les experts, arriver à déchiffrer le jargon des experts pour ensuite produire un référentiel ou un livrable qui soit conforme aux exigences et qui soit compréhensible par celui qui va le lire. Mm-hmm. Et une des premières questions qu'on pose à nos clients, et c'est étonnamment, ils ont du mal à y répondre, c'est on l'écrit pour qui ?
Ah oui.
Voilà, ce mode opératoire, est-ce que c'est un autre technicien ? Est-ce que c'est un autre ingénieur ? Ou est-ce que c'est un opérateur sur une machine ? Forcément, la rédaction ne doit pas être la même. Et donc tout ça fait partie du travail du rédacteur technique d'aller bien cadrer le sujet.
Voilà. Vous êtes en train de nous dire que ce métier est passionnant.
Voilà, donc c'est
alors
pour ça que
alors qu'au départ documentation c'est pas terrible.
Et en fait c'est passionnant parce que les rédacteurs techniques déjà ils ont choisi ce métier, eux ce qui les intéresse, et c'est vrai que pour nous on va travailler une demi-journée avec un client dans le médical. Mmh. L'après-midi, ça va être sur une notice de montage d'un abri de jardin. Et puis le lendemain, ça va être sur une notice de remplacement de rail. Donc, on ouvre des mondes auxquels on n'aurait pas du tout accès. Et au travers de la doc, on rentre vraiment aussi dans la capitalisation du savoir. Donc, on touche, nous, finalement, au cœur de chacune des entreprises, de leur savoir qu'ils ont capitalisé. Et la description d'un processus, d'un mode opératoire qui est souvent vu, et on travaille ensemble avec Vincent, comme un passage obligé. Oui, c'est parce qu'il y a un audit, c'est parce qu'on nous a dit de le faire. Alors qu'en fait, en faisant ça, l'entreprise capitalise son savoir indirectement. Mmh. Et elle permet d'être moins vulnérable à l'hyper spécialiste de son service qui, une fois parti, d'un seul coup, on se rend compte, mais comment on faisait ça ?
Oui, je comprends. Et alors, j'ai plein de questions à vous poser, Stéphane. Mais,
vous en priez, je suis là pour ça.
Quelle est l'intervention de votre intervention, Vincent, précisément, dans cette recherche de clients ? Comment, à quel moment vous intervenez ?
Avec Stéphane, vous parlez ?
Oui, avec Stéphane.
Bon. Moi, je suis plutôt. On a une expertise aussi au sein d'Orios sur tout ce qui est certification ISO et certification produit. Et donc là, on intervient nous typiquement. Là, on a un client en ce moment qui a besoin d'avoir une qualification pour entrer dans un domaine bien particulier que maîtrise Stéphane. Et en même temps, il veut une certification ISO 9000, 45000, 13000, toutes les belles certifications qu'il y a en ce moment. Donc, on intervient tous les deux en tant qu'experts dans notre domaine. Et c'est vrai qu'effectivement, derrière, on a toute une équipe qui permet de rédiger l'ensemble des processus.
Okay.
Donc c'est, et l'outil qu'on est en train de développer nous aide bien, justement, sur toute cette partie-là. Quoi.
Ouais. Alors là, en préparant le dossier, je me suis dit, mais on a l'IA pour faire tout ça. Est-ce que j'ai raison, Stéphane ?
Exactement, on a l'IA qui est en train de chambouler beaucoup de métiers. Et c'est la première chose qu'on me dit, mais finalement, votre métier,
il va disparaître au profit
de l'IA. Et j'ai ma procédure. En fait, ce que je viens d'expliquer là montre qu'on décrit beaucoup des façons de faire. On décrit beaucoup des documents qui peuvent être associés à une machine. On va s'appuyer, par exemple, sur les plans qui ont été les plans du bureau d'études, qui ont été faits avec des outils de CAO. Et à partir de ces plans-là et des interviews qu'on va avoir des ingénieurs qui vont nous expliquer la maintenance de ce filtre-là, il va falloir telle étape, il va falloir démonter ça, il va falloir remplacer par telle référence de pièce. Tout ça aujourd'hui, je ne sais pas ce que donnera l'avenir, mais aujourd'hui, si je mets les plans AutoCAD dans une IA, il va pas me sortir la notice, et surtout, il va pas savoir
pas
ce que
être
le,
aussi précis voilà, que vous le seriez.
Et ce que veut le mainteneur. Parce que, en fonction de la conception, il y a des pièces où il y a zéro maintenance et puis d'autres où il faut les remplacer régulièrement. Donc ça, c'est un sujet où la description, quand on va sur une certification d'entreprise, c'est on décrit les processus de l'entreprise. Donc ça passe par des interviews, ça passe. Si je demande par un prompt aussi magnifique soit-il, décris-moi l'organisation de mon entreprise, fais-moi ma cartographie des processus. Mmh. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Mmh. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous on est et on est en croissance, bien que l'IA arrive.
Oui.
Après c'est vrai que il y a un certain nombre de documents, on va dire, basiques, on ne le néglige oui. pas, et oui. puis, ça fait partie de notre rôle de chef d'entreprise, d'avoir une stratégie, oui. de faire oui, attention,
d'innover.
Et par contre, ce qui nous arrive, nous, c'est que le client va nous mettre à dispo très souvent un très large volume d'un corpus documentaire, justement sur son organisation. Mm-hmm. J'ai des organigrammes, j'ai des documents qui décrivent une partie, j'ai retrouvé un bout de procédure qu'on avait écrit il y a 5 ans, ou alors j'ai fait travailler, là, c'est
sur Vincent est mort de rire.
Oui, parce c'est un cas concret du moment, en plus. Ouais.
Ou des gens qui sont passés dans plusieurs entreprises et quand ils se retrouvent dans une nouvelle entreprise où ils ont à produire cette doc, ils disent bon, je vais voir ce que m'avaient fait mes anciens collègues et j'essaye de le triturer pour faire quelque chose qui ressemble au final à rien puisque c'est trop mixé. Mais ça fait un volume documentaire très important. Et nous, notre travail, c'est de s'approprier ces informations documentées alors qu'on ne connaît pas le sujet au départ. Donc c'est là où on travaille avec le CY sur un outil d'IA qui nous est propre, qui avec les questions de confidentialité dont j'ai parlé tout à l'heure, moi j'ai des clauses très strictes avec mes équipes où on ne met pas de documents sur ChatGPT ou autre, parce que là on divulgue de l'information immédiatement.
En plus c'est nourrir ChatGPT.
C'est nourrir ChatGPT et puis il y a des cas assez célèbres de grosses entreprises qui ont retrouvé leurs procédures internes très confidentielles sur ChatGPT. Donc voilà. Mais c'est un outil qui nous permet de faire un diagnostic de où sont les informations, quelles sont les thématiques abordées, même s'ils sont dans 15 documents. Un exemple très concret, on travaille beaucoup sur des documents d'organisation liés à la santé et sécurité au travail. Donc j'ai un manuel de SST à rédiger pour une entreprise, pour un directeur qualité. Mais il va y avoir des bouts de texte un peu à droite, à gauche, qui vont traiter par exemple des équipements de protection individuelle. Et puis on va en parler dans 5-6 documents. L'outil là va nous aider à nous faire une cartographie. Voilà, partout on parle de cette thématique. Parce que ça, c'est des données d'entrée dont on a besoin pour ensuite proposer une meilleure réorganisation de l'information et faire des documents light
qui
et
sont,
compréhensibles.
Qui sont en adéquation avec l'activité.
Et avec le besoin.
Stéphane, on marque une pause. Et on se retrouve tout de suite après le titre de Kenji qui chante « Je vis pour elle ».
Je vis pour elle jour après jour. Quand ses accords en moi se fondent, c'est ma plus belle histoire d'amour. Elle est restée en moi pour toujours.
Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Je vis pour elle depuis toujours. Qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre. Elle me dessine après l'amour. Un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique et certains jours. Quand notre cœur se fait trop lourd. Elle est la seule à pouvoir nous porter secours.
Che ci invita,
elle vivra toujours en moi,
attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei.
Je vis pour elle jour après jour, quand ses accords.
Per lei lo so mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo.
Je serai perdu sans elle.
Vivo per lei dentro gli hotel.
Je suis triste et je la perds.
Vivo per lei nel vortice.
je ne vis que par elle. Je ne vis que pour elle.
Sopra un palco contro un
per lei, perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
È la musica e la diselle, è il Madonna e la clé du ciel, qui m'ouvre enfin le porte du soleil. J'existe pas.
Vivo per lei la musica.
J'existe pour elle.
Vivo per lei è unica.
Elle est toi et moi. Lo vivo per lei.
Io vivo.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio avec ce matin notre spécial CYU, CY Transfer, en compagnie d'Isabelle Hofkens, directrice par intérim de CY Transfer, Stéphane Avronsart, fondateur et président de Axone Consulting, et Vincent Bauche, fondateur et dirigeant associé de Orios. Alors, la question que je me posais en vous écoutant, Stéphane, c'est que ces notices, donc très pointues, on a compris, sont lues par des gens qui vont donner le coup de tampon pour dire que la notice est conforme, mais eux-mêmes sont des gens donc qui sont qualifiés pour pouvoir valider ces notices.
Donc oui, vous l'avez compris, nous on écrit pour nos clients qui sont des experts, qui ont le savoir.
Mais ceux qui valident cette fameuse... Je ne parle pas de vos clients, mais votre client s'il a besoin
pour la certification, vous voulez dire, par exemple. Oui, alors effectivement, nous on va produire, on va accompagner nos clients pour décrire leur organisation. Et s'ils visent une certification, il va falloir qu'ils aient ensuite un organisme de certification qui va venir les auditer et qui va venir contrôler que... D'une part, c'est bien décrit, et d'autre part, qu'ils mettent en œuvre suivant ce qui est décrit. Donc nous, on peut pas être juge et partie, donc effectivement, oui, on va les accompagner, on va aller jusqu'au bout. On les accompagne jusqu'à faire les audits à blanc de certification, justement pour les entraîner. Et l'audit à blanc est un bon moyen de transférer la connaissance aussi en interne. C'est un moyen d'amélioration continue qui est assez puissant. Mais après, vous aurez un certificateur qui va venir et qui lui va dire c'est bon ou c'est pas bon. Et jusqu'à présent, tous ceux qui sont passés en certification après nous ont eu leur certif.
Donc, d'accord, on croise les doigts. Et vous, Vincent, vous, du coup, suite à cette question, enfin, on en a parlé hors antenne, vous nous citiez un cas précis d'un client qui avait créé une notice de plusieurs pages.
Ah oui, là, c'est un client qui avait, pour avoir des financements, avait un rapport à faire au ministère. Ils avaient passé énormément de temps à faire un gros document de plus de 200 pages. Quand c'est arrivé sur le bureau du ministre, le document était renvoyé en lui disant « Vous nous faites un résumé de 10-20 pages grand maximum avec l'essentiel. » Et là, les équipes de Stéphane ont travaillé justement sur la synthétiser. L'autre client qui est arrivé aussi, c'était un client qui avait développé un logiciel de caisse. Maintenant, tout doit être normalisé et il avait besoin d'avoir toute la documentation. Sinon, ce logiciel de caisse n'était pas homologué pour aller chez ses clients. Donc, il ne pouvait pas vendre. Donc là, c'est pareil. Les équipes de Stéphane ont travaillé sur la rédaction de l'ensemble des documents en conformité avec les normes qui vont bien pour que
oui,
que puisse vendre, c'est pas
tout,
moi.
Tout soit conforme. Et donc, Stéphane, vous avez fait appel à CY Transfer pour cette recherche, hein, avec l'IA. Votre sentiment, vous considérez que c'était tout de suite un bon partenariat?
Oui, parce que déjà, on n'est pas dans une relation commerciale. Alors, je vends, moi, de la prestation intellectuelle, donc je vois ce que je veux dire, mais il y a aussi cette confiance qui se crée d'office, parce que l'université va venir vous accompagner, va venir apporter son savoir, son savoir-faire et toute sa capacité de recherche. Mais on sait que c'est pas pour nous piquer le marché derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand, parfois, on peut se dire, on va voir un partenaire, où on cherche une compétence, et puis on se dit, oui, mais je vais lui livrer quand même de l'information. Donc déjà, c'est le premier point où là, il y a une notion de confiance qui s'instaure tout de suite. Et puis après, il y a la capacité d'innovation où on a face à nous des chercheurs.
Oui.
Ils savent quand même de quoi ils causent, et quand ils sont sur un sujet et qu'ils vous disent ça c'est possible ou ça va être très compliqué, il va falloir qu'on fouille. Voilà,
on a une. Vous avez tout de suite.
Voilà, on sait où on met les pieds.
Donne la température.
Et voilà, exactement. Ouais, ouais. Donc ça c'est très réconfortant et c'est rassurant.
Vincent Bosch, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je me souviens de la première réunion qu'on a eue avec le chercheur, avec Stéphane, où Stéphane a exprimé son besoin. Et le chercheur, derrière, a dit, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et ça aussi,
tout de suite, il a eu une vision.
Et Stéphane dit, c'est pas mal, on va faire ça dans un deuxième temps. Mais le premier temps, et c'est vrai ce que dit Stéphane, là, dernièrement, on a eu un nouveau besoin qui est arrivé. Les chercheurs avec qui on travaille nous ont dit, oui, ça peut prendre une semaine et six mois. Quoi.
Mm-hmm,
maintenant, il faut préciser le besoin exact pour avoir. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que
c'est
ce qu'on dit aux autres partenaires, aux autres adhérents de la CPME, c'est qu'effectivement, c'est pas un prestataire. Donc derrière, il y a un contrat avec tout ce qui est bien écrit sur la propriété intellectuelle et comment c'est transféré, justement. C'est CY Transfer. Hein. Donc, c'est pas pour eux qu'ils gardent. Et les coûts sont moindres aussi qu'un prestataire extérieur.
Bien sûr, c'est ce qu'on a dit au début de l'émission. Et donc, vous, Isabelle, quand quelqu'un comme Stéphane vient vous trouver pour son projet, ça doit être aussi assez passionnant quand même de voir que vous allez encore toucher à une autre dimension.
Oui, c'est ça. Chaque projet est différent, donc du coup ça donne une certaine dynamique à l'équipe. Et puis c'est un peu l'essence même de nos métiers, de faire cette mise en relation avec un laboratoire ou un chercheur, de ensuite faire en sorte que les deux soient à l'aise dans la relation de collaboration avec des contrats qui protègent les intérêts des uns et des autres, et que ça se fasse en mode équilibré, équitable. Et puis on est un facilitateur.
Oui, c'est ça.
Voilà,
c'est ça.
On est un facilitateur et nous on aime bien quand après ça se déroule sans nous, en vrai, presque.
Et puis pour vos chercheurs, là aussi, j'imagine que c'est un plus parce que ça leur donne l'opportunité d'aller travailler sur des sujets auxquels ils n'auraient peut-être pas forcément pensé.
Alors il y a 3-4 figures. Il y a effectivement le sujet qui vient s'ajouter à ce que l'enseignant-chercheur fait déjà, mais qui est une piste nouvelle et qu'il va explorer avec l'industriel. On a le chercheur qui avait la réponse à la problématique, qui ça lui permet de ne pas garder sa techno pour lui tout seul et d'en faire quelque chose d'appliqué. Et on a l'enseignant-chercheur pour lequel le travail avec l'industriel va être un terrain d'expérimentation. Il va pouvoir tester des choses et récupérer de la donnée sur ce qu'il va tester et pouvoir améliorer ensuite son travail de recherche.
Merci Isabelle. Oui, Vincent Bosch.
Dans les partenaires, dans les membres fondateurs du PEI, il y a quand même des grands noms aussi.
Oui.
Il n'y a pas que l'université avec qui on peut travailler. Vous avez le CEREMA qui fait des tests en grandeur réelle sur tout ce qui tourne autour de l'écologie, entre autres. Vous avez le CNRS aussi. Vous avez d'autres universités qui travaillent dans d'autres domaines d'activité. Donc c'est vous avez la SAT qui est quand même
la SAT, Erganeo, tout ça,
qui est un des financeurs tout ce qui est en pré-mat, mat, et qui a une collection de brevets qui s'exploitent et qui sont prêts à céder sur de la création d'entreprise. Donc il y a vraiment un réseau sur les membres fondateurs quand le PEI a été créé qui permet de toucher d'autres secteurs et pas uniquement CY Paris, Cergy. Et on a aussi dans les partenaires l'ensemble des incubateurs qui sont sur le territoire du 95, ce qui permet à Stéphane est aujourd'hui à 14K, On a fait un café.
La raison pour laquelle vous êtes un ami.
Un café PUI à 14K sur, et on avait une dizaine d'industriels qui étaient là, de la pépinière, qui, et dont deux qui sont intéressés par un partenariat avec l'université.
Oui, très bien, très bien.
Donc ça a permis, pouf, de lever deux qui n'avaient pas pensé et qui vont pouvoir partir. Donc ça, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est tout ce maillage territorial.
Et ce qui est formidable, c'est que bon, moi, je suis CY depuis plusieurs années maintenant et on sent vraiment que ça se déploie de plus en plus par rapport au début, quoi.
Bah la sensibilisation et l'animation du territoire qu'on a fait effectivement que les gens ont pris conscience que travailler avec l'université, c'était pas que travailler avec l'université.
Il y avait une vraie valeur ajoutée.
Il y avait un accès à un écosystème, en fait.
Voilà. Complètement.
Ce que vous avez mis en place permet d'accélérer, quoi. De passer entre l'idée et la commercialisation, on passe de 7 ans à 3 ans, quoi.
Avec
les process qui ont été mis en place avec le PUI, quoi.
C'est sûr. Et alors, Stéphane, déjà, est-ce que vous êtes nombreux à faire ce que vous faites? C'est un secteur concurrentiel ou vous êtes quand même assez protégé, on va dire?
Déjà, le faire aussi bien que nous, non, forcément.
Non, c'est ça, oui. Non, mais ça, on est sûr de...
On est tous d'accord, on répondra tous pareil. Non, c'est un marché de niche, très clairement. Ouais. Personne ne connaît la possibilité, en fait, d'externaliser la documentation. On a des concurrents vraiment à l'identique de nous, très peu, parce que on va avoir des grands groupes, des grands cabinets d'ingénierie qui vont avoir effectivement des rédacteurs techniques, mais eux vont pas être sur ce type de documents dont j'ai parlé. Ils vont plutôt essayer d'accompagner un industriel pour prendre une part de l'ingénierie. Donc concevoir une pièce ou concevoir une partie d'un moteur qui va rentrer dans un autre un projet plus gros, et eux vont avoir leur propre rédacteur technique pour produire la doc associée à leur livrable.
Oui, ça reste entre guillemets un peu plus standardisé, quoi.
C'est ça, ça reste une ressource interne pour produire leur propre document. Le fait de le faire en cabinet de conseil, en prestation externalisée, ça, on y en a quasiment pas.
Vous n'avez pas. Et alors, le fait d'ajouter cette dimension de l'IA, ça va peut-être vous mettre comme leader sur le marché?
C'est ça, c'est que forcément, à un moment donné, la question du prix se pose. Même si, je l'ai pas dit, mais un autre avantage pour nos clients, c'est que c'est une pertinence économique pour eux.
Ah oui.
Parce que très clairement, consommer des techniciens qui connaissent très très bien la machine ou un ingénieur qui est plutôt à même à développer, concevoir et puis réaliser, le consommer à faire de la doc, c'est du gâchis de ressources, clairement.
Oui.
Et quand on compare les taux journaliers moyens, le TJM, nous on fait de la prestation au TJM, un rédacteur technique coûte moins cher.
Bien sûr,
clairement.
Oui, parce
donc
que...
il y a aussi le coût de la doc, on le regarde jamais comme un asset.
Comme un investissement. On le voit comme une dépense alors que c'est un vrai investissement.
Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que la différence, c'est qu'on se dit, bon, la doc, on l'a fait en interne, donc c'est du masqué, ça coûte pas quelque part directement, sauf que quand vous avez 3, 5, 10, 15 jours, puis certaines...
Puis quand il y a des enjeux, comme on a cité tout à l'heure,
Des enjeux de certification, la journée de l'ingénieur qu'on consomme à ça, il vaut mieux l'externaliser.
Bien sûr. Merci beaucoup Stéphane d'avoir attiré notre attention sur ce monde exigeant finalement. Et puis, on vous souhaite que... tout fonctionne au niveau de l'IA, vous nous tiendrez au courant.
Avec plaisir. Mais c'est un outil pour nous pour être encore plus performants économiquement.
On a compris. Merci infiniment. Allez, on va faire une courte pause pour donner un peu plus la parole à Vincent quand même.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Dernière ligne droite de l'économie en direct sur IDFM Radio, en compagnie de Isabelle Hofkens, directrice par intérim de CY Transfer, Stéphane Avronsa, fondateur et président d'Axon Consulting, et Vincent Bosch, fondateur dirigeant associé du cabinet Orios, vice-président de la CPME du Val d'Oise. Vincent, donc on se connaît un petit peu, Vincent, c'est déjà vous étiez venu déjà. Alors j'ai vu, c'était en 2021, ça remonte quand même à pas mal d'années. Et puis on se croise quand même sur certains événements. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez créé Orios, Vincent?
Voilà, ça remonte à pas mal d'années, ça. Moi, j'étais dans
vous
un.
Vous en
grand...
souvenez plus?
Si. Non, j'étais dans un. Je dirigeais une business unit, comme on dit, dans un grand groupe, dans une grosse SS2I avec une soixantaine de personnes, et j'ai vraiment eu envie d'aller me rapprocher de mes clients. Donc, et de travailler avec les clients. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Orios, avec un objectif qui était d'aider les dirigeants dans la stratégie d'entreprise uniquement. Et puis, petit à petit, le besoin financier s'est fait connaître,
oui.
Parce qu'il y avait beaucoup de moins d'argent. Donc, c'est là qu'on s'est spécialisé dans tout ce qui était recherche de financement. Et puis, j'ai un associé avec qui je travaille, qui lui est spécialisé dans tout ce qui est certification. Donc, comme on a fait du médical, on a fait du nucléaire, on a fait du ferroviaire, on a un peu une expertise maintenant avec nos grands âges de tous les domaines. Et c'est vrai que c'est ça qui nous plaît, c'est vraiment de travailler avec les clients et d'être en partenariat avec d'autres. Donc, c'est comme ça maintenant que je travaille, oui, avec Stéphane. Tout à l'heure, il parlait que c'était beaucoup plus simple de faire rédiger sa documentation par un rédacteur technique qui travaille beaucoup plus vite que nous sur du Word et compagnie. Et quand on fait un accompagnement, une certification ISO, avant, on rédigeait les procédures nous-mêmes.
Quoi. Oui.
Bah, maintenant, on ne les rédige plus. Quoi. On
appelle
à Stéphane. Donc, c'est ça. On a des clients qui répondent à des appels d'offres. Et Stéphane a développé aussi une activité des mémoires techniques. Mémoire technique est quelque chose de très important pour répondre à un appel d'offres dans plein de domaines d'activité. Typiquement le BTP, quelqu'un qui travaille dans le BTP n'a pas forcément envie et la connaissance pour rédiger un mémoire technique qui tient la route. Mmh. Et Stéphane et Axon Consulting le fait parfaitement bien. Il en parlera peut-être tout à l'heure. Et en plus, ils traduisent dans toutes les langues possibles et inimaginables avec leurs partenaires. Donc c'est ça qui est intéressant. Et après, si on revient sur la partie PUI et CY transfert, là, c'est plutôt la casquette côté CPME et notre partenariat avec CY transfert qui permet à l'ensemble de nos adhérents d'avoir accès à tout ce monde qui est une vraie manne de savoir. Et comme le disait Isabelle, aujourd'hui, les discours sont en train réellement de se rapprocher entre le monde industriel,
oui,
et le monde académique. Les délais se rapprochent. Avant, il y a quelques années de ça, c'était, ouais, non, mais eux, ils raisonnent à 5 ans.
Ouais.
Nous, on raisonne à 5 mois. On pourra jamais travailler ensemble. Et à force de faire des visites de labo, rencontrer les chercheurs,
convaincre,
que les chercheurs, eux aussi, s'adaptent au discours d'un industriel, permettent aujourd'hui d'avancer ensemble, quoi.
Oui, ça fait partie maintenant des nouveaux enjeux de compétitivité.
De toute façon, on n'a pas le choix. Hein.
Ouais,
aujourd'hui, c'est l'innovation qui drive les entreprises. Si vous n'êtes pas innovant, à un moment donné, vous mourrez parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire à votre place. Quoi. Et vous prenez l'exemple de Stéphane avec la rédaction technique. Effectivement, l'IA arrive. Aujourd'hui, même nous...
Oui, avec la différence, c'est que Stéphane, je pense qu'il est, il a toujours eu cette volonté d'avancer.
Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant chez lui. C'est qu'il avance avec la technologie.
Oui.
Et vous prenez même aujourd'hui tout ce qui est certification ISO 9000. Aujourd'hui, vous tapez « je veux être certifié ISO 9001 », ça vous sort un manuel de qualité, ça vous sort toute votre cartographie de processus, quoi. Après, c'est pas forcément applicable à l'entreprise.
Mm-hmm.
Et nous, on cherche par notre expertise à faire que la documentation qu'on va rédiger, les gens s'en servent et facilitent leur travail et non pas l'alourdissent. Ce qui était quand même l'objectif premier des procédures à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est vraiment cette partie-là. Et puis, toutes les activités qu'on peut avoir aujourd'hui avec le pôle universitaire
permettent de rapprocher, ça vous a ouvert des
partenariats aussi entre différentes entreprises, un qui travaille sur tel sujet, un qui travaille sur d'autres, et de travailler ensemble et de monter des projets.
Est-ce que vous avez le sentiment, Vincent, que les entreprises connaissent suffisamment tous les dispositifs existants que vous mettez
Non, aujourd'hui, tous les dispositifs de financement qui existent, que ce soit public, privé, tout ce qui se passe avec les Saterga Neo ou SCAPUI, CY Transfer, on a parlé des chiffres tout à l'heure, il y en a peu qui l'ont. Il y a un dispositif FIRST qui existe au niveau de l'entreprise, il y a des conventions de collaboration et de partenariat avec l'université. Vous avez des chaires, vous avez les clubs qui ont une partie de financement. Et aujourd'hui, c'est tout ce qu'on essaye de faire avec Isabelle et ses équipes, et de communiquer pour démocratiser et faire savoir que ça existe et qu'on peut travailler ensemble pour avancer, on va dire, vers un monde meilleur.
Parce que dans le cas présent, alors c'est une question, si c'est indiscret, vous me le dites, Stéphane, mais est-ce que vous allez bénéficier de dispositifs existants, de financement pour la recherche que vous avez mis en route avec le PUI?
Oui, ça fait partie du justement de.
C'est important de le dire pour nos auditrices et auditeurs, parce que si ils ont un projet.
Quand vous travaillez avec l'universitaire, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites appel à un prestataire qui est accrédité par le ministère de la Recherche, vous avez droit à intégrer une partie de sa facture dans ce qu'on appelle le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation. Et tous les labos de l'université, enfin le PUI, est accrédité par ce ministère. Donc 30% de la facture passe en crédit impôt recherche. Plus de ça, on peut aller chercher d'autres types de financement. Tout à l'heure, je parlais d'une toute petite entreprise, d'un labo et une grosse entreprise. Vous avez des e-lab, vous avez des e-démo, vous avez tout un tas de dispositifs qui existent au niveau régional et national, qui permettent d'accompagner les entreprises et de financer une partie des développements.
Oui, c'est important de le dire. Donc, vous bénéficiez de ce type d'aide.
Complètement. Et puis c'est le partenariat avec Orios aussi, parce que c'est un vrai savoir, de savoir qu'est-ce qui existe comme financement, qui est éligible ou pas, et quel dossier il faut faire, et comment le déposer et où. C'est pareil.
Oui, c'est pas évident.
C'est complexe.
Chacun a ses connaissances.
Là, ça simplifie aussi, parce que comme c'est justement CY Transfer, c'est pour aussi simplifier ça et nous accompagner, nous, TPE en particulier, PME, à trouver le bon financement qui va avec notre volonté d'innovation.
Surtout qu'avec le monde que nous avons aujourd'hui économique, ces financements évoluent
au jour le jour,
de manière sans forcément que les dossiers, les cahiers des charges et autres qui sont déposés sur les sites pour répondre soient complètement à jour. Donc c'est vrai qu'il faut bien connaître l'environnement.
Faut être hyper. Vous êtes en veille permanente aussi.
C'est clair qu'on est en veille permanente. Et puis de toute façon, Isabelle et ses équipes aussi, quoi. Aujourd'hui, tous les dispositifs évoluent dans le temps, quoi. Donc il faut connaître leur évolution, quoi.
Et alors la question qui me vient, c'est comment convaincre une PME de qu'elle peut travailler avec les chercheurs de CY, du PUI?
Comment la convaincre, c'est lui expliquer que ça va lui faire gagner du temps puisque il y a de la recherche.
Mais c'est surtout plus précisément que pas créer le besoin, mais faire en sorte que elle peut évoluer et qu'elle le sait pas forcément.
C'est tout l'objectif de l'animation qu'on fait sur le territoire, que chaque événement où on vient présenter des outils, où on vient présenter des financements, où on vient faire un petit peu de success story en expliquant cette personne est venue nous voir, elle pensait ça et puis au final on a abouti à ça. Ça donne de l'exemple. On a des outils aussi qui nous permettent on fait des petites vidéos pour expliquer la collaboration avec un académique, c'est quoi, pour essayer de désacraliser et puis de rendre les choses un peu plus simples. Les gens qui connaissent pas le milieu universitaire peuvent penser que on met le pied dans une grosse administration, ça va être difficile, ça va être long.
Donc alors que pas du tout,
c'est à nous de montrer qu'en fait il y a plein de choses qui ont évolué aussi de notre côté et que du coup il y a plein d'outils qui permettent de faciliter tout ça et qu'en plus il y a une équipe dédiée à ça qui accompagne et l'enseignant-chercheur et l'entreprise.
Merci Isabelle. Vincent ?
Ils ont aussi en stock dans leur tête à peu près tout ce qui se fait dans les labos autour d'eux. Et ce qui fait que quand ils viennent sur un fichier Excel dans la tête, quoi. Et c'est vrai que quand ils viennent sur des événements, que ce soit Isabelle ou que ce soit les autres membres de son équipe, quand il y a quelqu'un qui présente son projet ou qui dit « Tiens, je suis en train de faire ça », il dit « Attends, mais nous, chez nous, on peut t'aider sur ça ». Là, le dernier café qu'on a fait à 14K, on est quand même reparti avec deux industriels qui n'avaient pas pensé à mettre c'est une innovation qui existe ou qui était en cours de maturation à CY au sein de leurs produits.
Mm-hmm. Mais je me souviens avoir, quand on fait ces émissions avec vous, j'essaie de trouver des industriels aussi qui peuvent venir et j'avais fait venir la société Ouragan qui est dans le prêt-à-porter de luxe. Et il avait exprimé un besoin. Ouais. Il avait un besoin de machine qu'il ne trouvait pas. Donc je ne sais pas si ça, il y a eu des suites, mais en tout cas
a priori voilà. Pas. Mais mm-hmm. Ça fait partie des choses qui mettent des fois un peu de temps
à maturer.
D'un côté comme de l'autre. Ouais. Donc il y a des fois il y a des prises de contact et puis il y a quelques mois qui passent et puis on se recroise et puis ah mais oui il faut qu'on prenne le temps d'eux.
Ouais. Alors, je m'adresse à tous les trois, quels seraient vos conseils à un entrepreneur qui souhaite innover, mais ne sait pas vers qui se tourner ? Isabelle ?
Je lui dirais, venez à notre rencontre, comme ça, qu'on discute. Il y a peut-être aussi des choses auxquelles il n'a pas pensé. Et puis nous, on a très probablement ressource scientifique
à proposer.
Alors si les solutions ne sont pas existantes, elles sont à développer. Mm-hmm. Et ça, on a des gens qui savent très bien faire. Donc
et quelle que soit la taille de l'entreprise.
Oui, quelle que soit la taille. Enfin voilà, nous dans les collaborations actuellement, on a aussi bien de la TPE où ils sont un ou deux salariés que du grand groupe. Mm-hmm. Ça dépend vraiment. En fait, c'est une histoire d'opportunité et c'est aussi une histoire de matching et de feeling.
Bien sûr.
Il faut que la personne dans l'entreprise qui va travailler avec notre enseignant-chercheur, il y a quelque chose qui se passe et qu'ils aient envie de travailler ensemble. On ne peut pas les forcer.
Merci Isabelle. Stéphane, pour quel serait votre conseil à nos auditrices auditeurs qui, s'ils ont envie d'innover ?
Le premier, c'est d'avoir le WhatsApp de Vincent.
Oui, c'est vrai. Il faut le rappeler.
Non, je dirais que moi, quand j'ai commencé sur des sujets d'innovation, comme je vous dis, avant même d'être chez Axon Consulting, c'était rien de l'état d'esprit de se dire, en fait, c'est possible.
Oui.
Sauf qu'on n'a aucune idée de comment faire parce qu'on n'en fait pas dans notre quotidien et de formation ingénieur. J'avais une bonne maîtrise technique, mais l'innovation est une autre façon de penser. Et là, en fait, de venir voir des chercheurs dont c'est le quotidien, en fait, d'un seul coup, ça vous ouvre un champ des possibles. Donc, la première barrière, c'est soi-même, je pense.
Oui, ne pas se dire c'est impossible.
C'est impossible parce qu'en fait, vous avez l'idée en tant que métier, vous savez quel est le besoin puisque c'est votre quotidien. Et on se dit, ouais, mais ça, c'est super compliqué. Il y a forcément des gros groupes qui ont des chercheurs intégrés. Alors, en fait, le premier conseil que je donnerais, c'est de pas se brider soi-même et de s'ouvrir à l'innovation, de se dire, je vais me renseigner, voir si c'est possible.
Mm-hmm. Très bien. Merci, Stéphane. Vincent?
Alors, se renseigner, c'est bien, mais il faut savoir où se renseigner.
Oui.
Et aujourd'hui, le pôle universitaire fait plein d'événements. Vous avez les Tech Days, vous avez les Cafés PUI, vous avez les Assises de l'innovation, vous pouvez les rencontrer. Vous avez tous les événements de la CPME où les gens commencent à savoir qui est en collaboration avec les gens du PUI. Le PUI, d'ailleurs, est un des adhérents. Donc, ils viennent aussi à nos événements. Donc, avec tous ces événements-là,
il y a une
synergie. Vous prenez toutes les pépinières, sont au courant de ce qui se passe au niveau du pôle universitaire. Donc, vous leur demandez, ils vont vous mettre en relation. Donc, vraiment, c'est aujourd'hui tout le réseau qu'on a tissé depuis quelques années sur le 95 et même à l'extérieur permet justement cette mise en relation. Mm-hmm. Ce qu'il faut, c'est aller voir quelqu'un qu'on connaît ou qu'on appelle.
Et puis, en tout cas, pas hésiter.
Et c'est lui qui va vous mettre en relation.
Même si on a l'impression que la demande paraît stupide, il faut l'exprimer.
Mm. Vous avez Initiative aussi qui fait des événements quasiment toutes les semaines.
Oui, c'est vrai, puisque maintenant, ils exportent dans d'autres...
Voilà, en plus, ils exportent dans le 78 maintenant. Ouais. Donc, vous pouvez aller les voir. Ils sont tous au courant des partenariats qui sont en cours et vous orientent sur cette partie-là. Donc c'est assez, entre guillemets, si on a envie, c'est pas compliqué, quoi.
C'est ça, oui.
Je dirais juste aussi que si vraiment quelqu'un a une idée, ne pas se censurer.
Oui, voilà.
En fait, c'est voilà. Ouais. Moi, souvent, je reçois des gens et ils commencent à me dire, oui, mais non, ça pas tout de suite ou ça, c'est pas. On se censure pas et on fera pas tout d'un coup. Mmh. On fera des étapes, mais au moins on a de la vision.
L'exprimer.
On sait ce qu'on veut, on sait où on veut arriver et il faut l'exprimer. Et puis il y a des fois, c'est pas possible parce que techniquement, c'est pas possible. Et puis il y a des fois, ça l'est.
Donc, super. Merci Vincent pour cet accompagnement stratégique qui reste, on l'a compris, un levier indispensable pour préparer l'avenir. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Donc, avant de se quitter, place au mot de la fin. Avec vous, Vincent, un mot de la fin.
Venez aux assises et soyez sponsors.
Très bien, merci. Au moins, c'est clair et précis. Stéphane, vous aviez une anecdote à nous raconter.
Oui, peut-être une anecdote parce que donc on a des clients qui, une fois qu'ils ont fait leur produit, le vendent dans le monde entier.
Oui.
Et donc, se pose le sujet de la traduction.
Oui.
Et donc, Action de Consulting accompagne les clients aussi avec un partenaire de traduction qui peut traduire dans 149 langues différentes. Et à nouveau, là, l'IA, souvent, on dit oui, mais ça sert plus à rien puisque aujourd'hui, il suffit de mettre la notice dans la langue souhaitée et ça sera traduit automatiquement. Et j'ai une anecdote, donc, vous voyez un rail, vous le coupez, vous en faites une tranche, c'est une forme de champignon. Vous voyez, d'accord, avec une tête, oui, une âme qui est assez faible et un patin plus élargi. Eh bien, on l'appelle comme ça en France, c'est le champignon du rail. Donc, traduit en automatique par l'IA, ça vous fait un mushroom of rail. Voilà. Sauf que dans la profession, oui, c'est pas comme ça en anglais, c'est le head of rail qui est vraiment la tête du rail. Voilà. Donc, c'est un exemple assez amusant. Oui. Là, il s'avère que moi, j'avais besoin d'une traduction rapide et je suis expert. Donc, j'ai pu ensuite, et je parle
vous
anglais,
avez pu intervenir.
J'ai pu corriger. Et puis, voilà. Mais ça m'a fait gagner du temps, certainement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été traduites automatiquement. Mais j'avais la capacité à relire et j'ai la connaissance du bon terme. Mais si je l'avais traduit en lituanien, en chinois ou en japonais, ce genre de choses, voilà. Ouais, donc on passe par des cabinets pour ça.
Pourquoi Axon Consulting?
Alors je vais faire appel à vos souvenirs de lycée, Sciences Nat. Mmh. L'axone, en fait, c'est la fibre nerveuse à l'intérieur d'un neurone.
D'accord.
Donc, axone, puisqu'on faisait de la prestation intellectuelle, je trouvais que c'était assez amusant. Et j'ai mis un S parce que j'ai des potes un peu taquins qui m'ont, si j'avais pas mis des S, ils m'ont dit, mais t'as qu'un neurone dans ton entreprise.
D'accord,
voilà.
Donc,
Axon Consulting.
Vous avez devancé là.
Voilà d'où vient le terme axone.
Très bien. Merci Stéphane. Merci.
Avec plaisir.
Isabelle, le mot de la fin est pour vous.
Eh bien, merci. Je dirais, venez à notre rencontre. Venez voir ce qu'on fait. Venez essayer. Hein. On peut commencer par des petites choses pour voir si on arrive à travailler ensemble. Et puis, on est à mi-parcours du PUI. Donc, on a plutôt un bon bilan sur ces deux premières années. Et donc, on espère avoir le même pour les deux prochaines.
Ah ben, on vous le souhaite. Mais il n'y a pas de raison parce que vous êtes bien parti et avec beaucoup d'innovation. Précisément.
C'est ça.
Vous êtes au courant des autres PUI, de la façon dont ils évoluent?
C'est très hétéroclite aussi, oui, puisqu'on n'a pas tous choisi les mêmes thématiques phares. Hein. Nous, on est un PUI un petit peu atypique en s'étant positionné sur les sciences humaines et sociales.
Oui.
En grande partie, pas que, hein, sciences et techniques a sa part belle aussi dans le PUI, mais on a mis beaucoup d'actions en place pour les sciences humaines et sociales qui étaient un petit peu pas très bien financées sur la prématuration et la maturation.
Méconnue, oui,
et... Voilà. D'autres PUI ont choisi par exemple de tout mettre sur du business development, d'autres ont choisi de tout mettre sur de l'IA. Donc c'est très aléatoire, donc difficilement comparable.
Oui, je comprends.
Mais la plupart des PUI ont obtenu quelques résultats. Donc c'est plutôt un appel à projet qui a plutôt
qui
bien fonctionné, on va dire.
Ouais, ouais. Super. Merci infiniment. Nous, on retiendra qu'aujourd'hui, l'idée essentielle, c'est que l'innovation naît souvent de la rencontre entre les compétences, les idées et les acteurs d'un territoire et que justement, le rôle du PUI CY Transfer est de créer ces passerelles entre recherche, entreprise et développement économique. Merci infiniment. C'était un vrai plaisir de vous avoir à nos côtés. Merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. Mardi, on se retrouve pour une nouvelle émission. D'ici là, belle journée et bon week-end. Restez sur notre fréquence pour la suite de nos programmes.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Oh amor, sé que tú también sientes hoy. Habrá una vibra entre nosotros. Eres mi evidencia. Ay, mi amor, ven aquí a matar mi soledad. Tú completas mi mitad, es claro. Y tú me vuelves loco. Si me pides que me quede, no me iré de tu lado. Mi cariño, sé que es contigo. Estoy soñando despierto. Lo que nací para ti, tú para mí. Sé que todo estaré bien, muy bien, mami. Y hasta el fin, estaré contigo al fin. Lo que nací para ti, tú para mí. Sé que todo estaré bien, muy bien, mami. Y hasta el fin, estaré contigo al fin. Oh, amor, sé que tú también sientes ahora. Una vibra entre nosotros. Eres mi evidencia. Mi amor, ven aquí a matar mi soledad. Tú completas mi mitad, es claro. Y tú me vuelves loco. Si me pides que me quede, no me iré de tu lado. Soñando despierto. Lo que nací para ti, tú para mí. Sé que todo estaré muy bien, mami. Y hasta el fin, estaré contigo a mí.
Voyager dans les plus beaux pays, goûter les plus beaux hôtels et les grands lits. Près de lui, le chemin du bonheur est bien droit. J'ai compris, avec moi, c'est vrai que notre lit sera plus petit. Parce que je veux que tu sois plus proche de mes bras. La route vers le bonheur sera plus longue aussi. Juste pour avoir plus de temps avec toi. J'ai des milliers de jolies choses à te dire, mais pas une seule en est assez belle pour ça. Si on se dit rien, j'aurai pas de mal à tenir. Du moment que je pose mes yeux sur toi, 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 habillé de bijoux, de parures, de tout ce qu'il y a de plus cher aujourd'hui. Vous vivez dans le plus bel appart de la rue.